Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Que je vais vous quitter. Il est tard. Elle se lève et fait « Ah ?» Il dit « Oui, demain, j'ai à travailler. » Elle lui fait « Moi aussi, mais nous pourrions peut-être si nous reposer ensemble. » Il lui dit « Je suis atrocement fatigué et j'ai sommeil. » Elle lui fait « Je sais, mais peut-être. » Elle s'approche de lui, tremblante. Il ne bouge pas. Elle lui dit « Nous sommes adultes tout de même. Vous êtes extrêmement charmant et vous me faites dire des choses qui me gênent, qu'on ne devrait pas dire. » Elle hausse ses épaules et lui dit « Allez, venez !» Il la suit. Sortent du salon. Elle ouvre une porte, éclaire, et fait entrer, c'est sa chambre, et ferme la porte. Il lui dit, je suis atrocement fatigué, je vous préviens. Elle lui dit, qu'importe. Elle lui défait sa cravate, lui déboutonne sa chemise, lui défait son pantalon, lui enlève sa veste, qui tombe à terre. Sa chemise qui tombe à terre aussi, fait descendre son pantalon. Il ne ressent rien. Elle voit qu'il a gardé un corps d'adolescent. Il est très beau. Elle le laisse en slip et chaussettes et chaussures. Elle dégrafe sa robe. Par derrière, la robe tombe à terre. Elle est nue. Il se dit, joli corps. Mais ça ne me dit rien. Rien du tout. Absolument rien. Mais service recommandé oblige. Ah, 007 et les filles. Lui aussi aurait sûrement besoin de se reposer. En plus de tout ce qu'il a à faire, il doit s'occuper de ses poupées. Il aurait mieux aimé dormir tranquille.
Non. Non.
Une demi-heure après, il s'est endormi et est près de lui, éveillé en se disant que ce sera mieux la prochaine fois. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Voit où il est. Voit ce qu'il a fait. Il est réveillé, pensé pour sur lui. Il voit où il était et a vu qui il était. Il est réveillé, penché sur lui. Il lui dit « Bonjour ». Il dit « Bonjour ». Il lui dit « Je m'excuse pour hier, mais... Je te l'avais bien dit, je t'avais prévenu. » Elle lui fait, ça n'a pas d'importance. Nous recommencerons. Et elle l'embrasse sous la joue. Désormais, en plus de tout ce qu'il fait, il y a ça. Il est épuisé. Il se sait comment s'en débarrasser. Elle, Brigitte, est aux anges. Au cours d'un repas qu'elle prend chez son père, elle lui dit « Je suis presque fiancée avec Harold, le vice-président du groupe Franc-Blanc. » Auguste est surpris.
Félicitations. Et c'est pour quand le mariage?
Elle lui dit, ce n'est que le début. Amélie lui demande, vous êtes rencontrés comment? Elle lui dit, c'est la directrice des relations humaines qui me l'a présenté au cours d'une soirée. Et nous sommes devenus, pour ainsi dire, unis l'un pour l'autre. Nous avons été attirés l'un à l'autre. Et nous nous retrouvons sans arrêt. Nous faisons des tas de choses ensemble. Et elle lui dit, des choses au lit? Elle lui dit, dis donc toi, ça ne te regarde pas ?» Elle dit à sa mère. « Bien sûr. Et il est épatant. Il dort comme un bébé. » La mère fait « Ah ah !» Brigitte lui dit « Non, ne faisons pas que ça. Il nous est même arrivé une aventure, comme dans les films. Nous avons été enlevés et séquestrés. C'était horrible. J'ai été terrifié, avec des palpitations. » Sa mère se demande si elle n'est pas un peu folle. Elle doit lire un peu trop Harlequin. Elle lui dit « Et nous avons été sauvés par un homme charmant qui a presque un château à Versailles. Ça fait rire, tout le monde. Elle dit « Pourquoi riez-vous ?» La mère lui dit « Rien, continue !» Elle se tait. Auguste lui dit « Si c'est du sérieux, tu dois lui demander ce qu'il compte faire, à moins que ce soit que pour jouer à des jeux de rôle. » Elle est furieuse. Et se dit que sa famille ne la comprend pas, ne la prend pas au sérieux. Dès qu'elle revoit Harold, son restaurant, place de l'Étoile. Une fois installée, elle lui demande Et si nous vivions ensemble, nous voyons constamment, ça ne changerait pas beaucoup ? Il est furieux. Il sent une douleur à la jambe. À la jambe qui lui a si gentiment caressé Florent. Et il lui dit calmement, « C'est impossible, tu comprends ? Tu as ta famille, les autres. Le groupe, je suis ton supérieur, la forêt jasée, et puis ma vie, c'est le groupe et Gilbert. Elle est triste, triste. Puis elle se dit qu'il ne faut pas l'effaroucher, elle est petit à petit. Elle est déjà dans son lit. Il dort beaucoup, mais enfin, elle y arrivera. Elle lui dit, bien, j'attendrai. Il lui dit, il faut comprendre, tu comprends, j'ai un rôle dans la société et l'on se voit déjà beaucoup. Elle lui dit, oui, tu es comme le prince de Galles. Il ne peut pas fréquenter qui il veut, qui peut sortir sans que le monde le sache. Il lui dit, oui, c'est ça. Elle se met à rêver qu'elle aime un prince au moins. Et qui sont surveillés par le monde entier. Sont obligés de se cacher, leur amour, mais ils se marieront et pour personne ne pourra rien dire. Cela la fait patienter. Florent passe des journées entières à attendre l'appel téléphonique d'Harold. Mais rien. Il se dit qu'il ne veut plus le voir à cause de ce fameux geste. Il le déteste, ce geste qui l'a fait commettre. Il a fait connaître la douceur de son ami et lui a fait perdre à jamais. Il aimerait mourir. À quoi bon vivre? Il aimera toujours ce qu'il ne faut pas aimer. Et en vieillissant, ce sera pire. Parce que les autres vont encore plus le rejeter. Non. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Les jours passent. Adrien, blessé à mort par la mort de son Félicien, ne supporte plus d'être en France. Il a besoin d'autres horizons. Il va dire au revoir à son frère et à sa belle-sœur. Je pars pour l'Amérique du Sud. J'irai au Chili. Après, je verrai. Je ne supporte plus de vivre ici. Là-bas, les jeunes gens sont moins... Ils ressemblent moins à Félicien. Pauvre Félicien. Quelle horreur. Auguste lui demande « Comment va la mère ?» Il lui dit « Elle supporte la chose comme elle peut, la pauvre. » Un fils unique, tu le penses. Auguste n'ose pas aller trop loin, poser trop de questions, parce qu'il ne sait toujours pas qui est Félicien. Peut-être est-ce le fils de son frère? Il ne sait pas. Adrien prend l'avion. Pour Chili.
L'avion est en train d'atterrir. Où est Stasi?
En emportant son secret avec lui.
L'avion est en train d'atterrir. Où est Stasi?
Les jours passent. Frédéric et Gilles sont toujours ensemble. Les filles cherchent après eux, mais ils se disent qu'ils sont mieux ensemble. Ils sont très bons élèves tous les deux. Cela surprend Auguste et se demande ne pourrait pas être l'héritier. Il va en parler à sa femme. Au salon. Frappe à la porte.
Entrez.
Il entre. Elle est assise dans un fauteuil. Il va s'asseoir en face d'elle. Lui dit,
il y a quelque chose qui me chagrine.
Elle lève la tête et lui demande,
quoi?
Il lui dit, voilà, je me fais vieux et je pense à ma succession.
Tu n'as pas à te poser des questions, tu n'es pas si vieux que ça. Il lui dit,
oh que si, allez.
Il soupire et lui dit,
je suis déçu par tout le monde, sauf par Frédéric, qui a de très bonnes notes et semble être très sérieux.
Elle lui dit, ça c'est toi qui le dis. Il lui dit,
je crois que je me suis trompé sur lui et sa mère.
Amélie le regarde surprise. Elle lui dit,
tu divagues mon ami.
Il lui dit,
non, je t'assure, ce petit a quelque chose.
Elle lui dit,
il est tout le portrait de sa mère, voilà ce qu'il a, un bon à rien. Et tu veux donner ta fortune à ce voyou. Ils sont tous les deux pareils, et c'est pour ça qu'ils ont ces relations pas très catholiques.
Il lui dit, Frédéric subit son frère.
Elle lui dit, c'est parce qu'il le veut bien.
Il lui dit agacé, je vois que tu ne l'aimes pas. Alors, toi qui es plus intelligente que moi, dis-moi, qui peut me succéder? Je n'ai que deux petits-fils.
Elle lui dit, Brigitte, ta fille, qui va très bien
et qui est comblée, qui est un exemple. Elle fréquente un très très beau parti, Harold. Elle te fera de très beaux petits-enfants.
Il hausse les épaules et lui dit, mais mon nom va disparaître.
Elle lui dit, non, plus maintenant, puisque les femmes peuvent garder leur nom de jeune fille.
Il lui dit, mais les enfants?
Elle lui fait, ça, je ne sais pas. Et peut-être qu'ils pourront choisir.
Il lui dit, quel méli-mélo, si les enfants choisissent la famille, leur nom et tout. Et qui te dit qu'ils nous choisiront?
Il lui dit, et pourquoi pas?
Et si c'est des filles?
Elle hausse ses épaules. Auguste reste sur ses positions pour le moment. Les jours passent. Brigitte se lasse de ce prince charmant qui est si charmant même au lit. Il dort comme un bébé et c'est tout. Il ne lui parle pas de mariage. Ils sortent ensemble, mais c'est tout, comme deux amis. À la fin, on se lasse, surtout avec un ami dans son lit, même si c'est le prince charmant, pour rien. Juste le voir dormir. Une personne qui dort, c'est joli, mais c'est tout. Alors, comme son corps, de jour en jour, a besoin de certaines choses, et comme elle ne peut pas les dire, vous les demandez au prince, elle ne veut pas non plus le tromper, elle décide, c'est de rompre.
Elle veut rompre pour courir la chose qu'ont les hommes et qu'elle n'a pas entre les jambes. Un soir, sont allés au restaurant et ont bien mangé. Elle habille une belle robe rose en paillettes. Elle lui demande: Harold, que comptez-vous faire? Il lui demande quoi? Elle lui dit: oui, vous et moi, ça fait des mois que nous sommes ensemble. Alors je me demande ce que vous comptez faire. Il est surpris et lui dit: je ne sais pas. Elle lui dit: écoutez, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé c'est que l'on arrête de se voir. Oui, je sais, c'est un peu brusque à dire comme ça. Mais que voulez-vous? Nous ne faisons rien de concret. Le temps passe et je vois que ma vie avance. Et je ne veux pas rester comme ça. Alors j'ai décidé, c'est de vous quitter. Ou plutôt, que l'on ne se voie plus.
Alors attention, tour de magie.
Il lui dit: Brigitte. Elle lui dit: quoi? Je sais pas. Elle lui dit: vous voyez bien que j'ai raison. Il est troublé parce que c'est une gentille copine et puis il est fier de sortir avec une jolie belle fille. Il lui demande: pouvons-nous voir de temps en temps? Elle lui dit: non, il vaut mieux tout arrêter, c'est mieux. Allez, ne soyez pas triste. Il lui dit: bien sûr. Pour vous, mais moi, que vais-je devenir? Elle lui dit: beau que vous êtes, les relations que vous avez, vous trouverez facilement une gentille jeune fille. Il lui dit: vous croyez, c'est ça que je recherche? Elle lui dit: mais oui, bien sûr, vous êtes un grand romantique, non?
Moi j'aime savoir où j'en suis.
Il lui dit: vous croyez? Elle lui dit: mais oui, bien sûr, ça fait des mois que je vous connais. Vous êtes un vieil enfant, il vous faut une enfant et pas une femme comme moi. Il se dit: que c'est juste le contraire. Ce qu'il lui faut, c'est une belle poupée, une Marilyn ou une bébé, mais pas une petite fille sage qui veut être une bonne épouse. Il n'en a rien à foutre de la vie de famille. Elle n'a pas besoin de femme pour faire son ménage. Il a des domestiques pour ça. Non, il a besoin d'une femme pour se parer comme on se met un bijou. Il est triste et se dit qu'avec elle,
tour de magie,
au moins il était tranquille. Il couchait, mais tranquillement. Le monde croyait qu'il couchait et c'était bien pour son standing. Et puis il n'avait rien à faire. Elle ne demandait rien.
nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.